Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Magdalena Kojena.
Bonjour.
Alors vous chantez un peu en français dans ce nouvel album, vous chantez du Ravel. C'est pas la première fois que vous attrapez la langue française. Quel rapport d'ailleurs vous avez entretenu tout au long de votre carrière et peut-être de votre éducation musicale avec d'une part les compositeurs français et même la langue elle-même?
Moi j'ai toujours grande passion pour les langues en général. Mmh. Évidemment, j'ai vécu en France pendant un certain temps, donc j'avais la chance d'apprendre le français. Mmh. Pour moi, le français, c'est une langue très plein de couleurs. Pour moi, un peu comme une peinture, qu'on peut faire des choses spéciales avec le son. On peut... C'était très différent, par exemple, de la musique allemande, où, évidemment, on a des phrases magnifiques, le texte est toujours très important, mais il faut toujours garder, on va dire, les mêmes couleurs. En français, avec la langue, avec aussi les voyelles nasales, tout ça, on peut faire des sons un peu, disons, bizarres, mais c'est la chose qui m'en fait très intéresse, parce que... On peut décrire tous les mots si on dit quelque chose, la haine ou quelque chose qui n'est pas en fait beau. On peut aussi faire un son qui n'est pas spécialement beau pour exprimer la palette des expressions est pour moi plus riche que dans l'autre langue. Donc c'est pour ça que je chante beaucoup la musique française. Surtout en récital, je suis très passionnée de la musique de Debussy, de Ravel, de Forêt, du Parc, tout ça. Et en plus, évidemment, en France, j'imagine que beaucoup de chanteurs chantent cet répertoire, mais en général, en récital, dans le monde, c'est pas si souvent donné que ça. Donc, c'est aussi pour moi une petite spécialisation que j'aime bien.
Vous vous souvenez la toute première fois que vous avez chanté en français, dans vos études peut-être, la toute première fois que vous êtes lancé à chanter du français?
Oui, je pense que j'ai choisi le truc le plus difficile possible. C'était les balades de Villon de Debussy.
Pour
un début, c'est pas mal. Je suis sûre que c'était horrible au niveau de la langue. Mais comme j'étais toujours, j'ai commencé comme pianiste, donc j'étais déjà très passionnée avec la musique de Debussy. J'ai acheté des partitions et j'ai cherché les mélodies de Debussy tout de suite. Mais il faut dire qu'en République tchèque, la culture dans l'éducation, c'est plutôt germanique. En plus, on était enfermés dans un pays socialistique, donc la seule langue qu'on a appris à l'école, c'était russe. Et on pouvait apprendre allemand parce qu'il y avait allemand de l'Est. Donc, on pouvait justifier pourquoi on veut apprendre allemand. Mais d'autres langues, en français, on n'avait pas vraiment d'accès. Donc, c'était difficile même trouver quelqu'un qui parlait bien français pour aider aux étudiants avec la langue française. Donc, ce n'était pas évident à l'époque. Ça commençait pour moi un peu plus tard. Même, j'ai essayé déjà de faire des choses comme Debussy. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être très bien.
Justement, quand vous êtes... Alors, on connaît la légende, l'histoire. Vous avez fait du piano, vous êtes cassé les mains, vous avez dû chanter, etc. Une belle histoire, d'ailleurs. Mais effectivement, la spécificité d'un musicien qui utilise sa voix comme vous, d'un chanteur, c'est qu'effectivement, il peut changer d'une langue à l'autre. Passer d'une langue à l'autre dans votre éducation musicale de chanteuse, c'est quelque chose qui est venu très facilement, très naturellement, ou ça a été difficile?
Non, j'aime des langues, j'aime faire ça, même on ne peut pas dire que c'est facile, parce que... déjà, quand on est dans une langue, on est dans un univers, et c'est pas évident de passer tout de suite, par exemple, dans un récital sur une autre langue. Il faut beaucoup d'expérience. Et en plus, ça, c'est un travail qui finit jamais. Parce qu'on n'arrive jamais à chanter dans une langue si parfaitement que quelqu'un qui est né dans cette langue.
C'est la maternelle, bien sûr.
Ouais. Donc, j'ai toujours, même si je chante français... C'est bien en allemand. Chaque fois, j'ai des gens qui me corrigent, tout ça. Donc, comme je dis, ça ne finit pas. Donc, c'est pas simple, mais c'est très intéressant pour moi. J'ai souvent fait des récitals où je mélange les langues parce que j'aime bien la variété des choses, de montrer. Par exemple, la même époque, dans les pays différents, tout ça.
Alors, c'est vrai que même les programmes récitals, mais surtout au disque aussi, à chaque fois, vous essayez toujours de construire ça pour ce nouvel album qui s'appelle Love and Longing. Donc, on a parlé de Ravel, vous chantez Scheherazade. Là, vous chantez aussi dans votre langue natale, il y a du Dvorak. Également du Mahler. Comment est venue l'association de ces pièces, des Rückerlieder, des chants bibliques et de Scheherazade? C'est quelque chose. Comment ça se passe d'ailleurs à chaque fois que vous construisez un album, vous essayez de faire une sorte de voyage global?
C'est très différent de chaque album. Normalement, évidemment, on essaie d'avoir une dramaturgie, une idée derrière. Là, j'avoue honnêtement que. Qu'on m'a dit qu'il y a cette possibilité de faire un disque avec Berliner Philharmonic, avec mon mari. Évidemment, c'est la chose qui ne se passe pas tous les années, donc on veut mettre des choses plus beaux, des choses qu'on connaît vraiment bien, qu'on se sent bien dedans pour donner le mieux. Donc, au départ... j'ai choisi la chose intéressante, et c'est ces trois pièces, c'était écrite au cours de 10 ans. Donc c'est vraiment exactement la même période, c'est déjà pas mal. mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai découvert après que de toute façon, ces trois pièces, même ils sont très 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 différents, il y a une espèce de messages personnels de chaque compositeur, spécialement intimes. Pour dire, Dvorak, il a écrit les chants bibliques aux États-Unis. Il a commencé à être très passionné par le gospel, par la musique des gens de couleur noire. Et dans ces mélodies, au niveau, par exemple, d'harmonie, il était allé assez en arrière. Il était déjà beaucoup plus moderne dans les œuvres qu'il a créées à l'époque. Il est revenu dans une espèce de simplicité incroyable parce que ce sont plutôt des prières que mélodies pour moi. Évidemment, il avait beaucoup de nostalgie pour ne pas être dans son pays. Voilà, donc pour moi, c'est un message très, très spirituel et personnel de lui. Ravel, je ne pense pas qu'il y ait une œuvre plus érotique que Scheherazade. Je pense qu'il combine le sujet exotique, le voyage en Asie, les désirs, elle toujours parle, je voudrais voir ça, je voudrais... Mais ce n'est pas possible. Et c'est un peu, je vois comme dans sa vie, parce qu'on dit de lui qu'il n'a jamais vécu une relation intime. Je sens là-dedans aussi cette nostalgie et de désir de vivre quelque chose comme ça. Donc, de nouveau, quelque chose très, très personnel, très intime de lui. Et il m'a l'air dans l'air de côté de...
Encore personnel aussi.
Encore personnel, son amour pour Alma. Et aussi, Ich bin der Welt, c'est un message très spirituel, peut-être une réflexion. Qu'est-ce qui se passe après la mort, s'il y a quelque chose, voilà, de se retirer de la vie, peut-être aller à un autre niveau de la vie spirituelle, comme ça. So, de nouveau, aussi au niveau de l'orchestration de ces mélodies, c'est assez, assez original et moderne, par exemple, au Mitternacht. C'est orchestré seulement avec des instruments en vent, ce qui déjà a mis cette mélodie dans un univers assez particulier. Les musiciens, parce que je chantais beaucoup, les musiciens se sentent très exposés, c'est très difficile parce qu'il y a très peu d'instruments, c'est presque comme musique de chambre. Et ça donne une espèce de tension parce que tout le monde a un peu de trac aussi, c'est son sel dans l'orchestre. Et ça donne vraiment cette impression, un homme à minuit qui réfléchit. Évidemment, la nuit, tous les problèmes deviennent beaucoup plus grands. Donc, il y a cette intensité des émotions que je trouve très, très spéciale.
Je voudrais mon rêve, le désir de fleurs.
comme ça de voyager justement d'un répertoire à l'autre, même si vous l'avez dit, c'est écrit dans la même période, mais c'est quand même assez différent, comme
oui.
Vous l'avez décrit. Et vous, c'est vrai que votre parcours et ce que vous chantez, on va du baroque au contemporain, musique folklorique, etc., il y a comme des besoins à chaque fois, vraiment, de passer d'une époque à l'autre, d'un répertoire à l'autre, d'une texture musicale à l'autre. C'est un carburant pour vous, c'est vital, ou c'est finalement juste des hasards et...
Non, je ne pense pas que c'est du hasard. Mais il y a des artistes qui aiment bien se spécialiser sur une époque, ce qui est aussi très intelligent, parce qu'on peut peut-être devenir génial dans un domaine. Mais ça ne m'intéresse pas, parce que moi, ce qui est génial, c'est ce progrès de la musique, comme la musique baroque, par exemple, influence la musique contemporaine. Et j'adore découvrir des choses et après, peut-être ce que j'ai appris dans un certain style, de l'amener dans un autre style. Pour moi, c'est la complexité des choses qui me passionne. Essayer aussi chanter un peu différemment, exprimer... m'exprimer avec d'autres moyens, avec d'autres façons de chanter, c'est la chose qui m'a toujours intéressée.
Est-ce que la donnée du temps est quelque chose d'important pour vous? On est en 2012, ce que vous chantez a parfois été écrit il y a 10, 20, un siècle, deux siècles, trois siècles plus, etc. D'amener ça aujourd'hui, ça a un message, ça a quelque chose pour vous sur l'intemporalité de la musique. Alors, c'est toujours un cliché de dire que la musique est intemporelle. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important quand vous chantez, vous adressez un public de votre temps, de votre époque, sur des œuvres qui ont été écrites il y a d'autres siècles. C'est quelque chose qui est important pour vous ou finalement non? Pas vous chanter une chanson?
Moi, je n'ai jamais pensé à ça de cette façon. Quelquefois. Parce que quelquefois je pense, par exemple pour les chanteuses de pop, c'est toujours, on écrit une chanson pour elles, et on toujours répète le même truc de Mozart, voilà. Donc ça peut être un peu embêtant. Mais en même temps, la musique est tellement belle et on parle toujours du même sujet, même, tu vois, on fait la musique de Renaissance, il y a toujours des émotions, des expressions que j'ai l'impression, je les sens aussi. Je ne sais pas comment les gens se sentaient à l'époque, mais pour moi, c'est toujours très contemporain. Pour moi, ça ne fait pas grande différence.
Sur la partie de jeu, de l'acteur, j'allais dire, du chanteur, c'est quelque chose dans votre parcours qui a été facile pour vous au début, c'est-à-dire de vous transformer. Voilà, comme vous avez chanté, je crois, Carmen, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, quand on dit. De tout à coup se mettre dans la peau de quelqu'un complètement opposé à soi, quand vous êtes engagé dans cette voie de chanteuse, c'est quelque chose qui vous a intéressé, passionné, fait peur. Est-ce que vous aviez un tempérament d'actrice quand vous avez commencé? L'interprétation, de mettre un costume qui vous représentait pas, qui n'était pas vous, vous amusez à
jouer. Oui, déjà comme enfant, je chantais dans le chœur des enfants de l'opéra de Brno, donc... En fait, ma premier rôle sur scène, c'était l'enfant de Carmen, justement. Donc, j'étais déjà en contact un peu avec l'opéra. Évidemment, je pense que comme tout, il faut avoir un peu de talent, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc, en rencontrant des super metteurs en scène, on s'améliore. Mais je trouve quand même, quand on chante, mais si on joue pas, on fait un récital... C'est déjà quand même un petit opéra ou quelque chose comme ça. On le dit, l'histoire. Donc, il faut déjà interpréter ça, il faut déjà jouer, il faut se mettre dans un pot de quelqu'un d'autre, peut-être pas si dramatiquement qu'on dans l'opéra. Mais c'est une chose qui, à la fin, je trouve très naturelle parce que on rencontre quelque chose et ça, quelquefois aussi ça aide d'être quelqu'un d'autre parce que c'est pas toujours moi, c'est pas toujours mon avis, ce que je dis au public, donc c'est bien d'être quelqu'un d'autre, évidemment on peut y aller parce que c'est pas moi qui le fais.
Est-ce qu'il y a des acteurs de théâtre ou de cinéma qui vous ont influencé, qui vous ont servi de modèle, par exemple, sur cet aspect-là, ou pas vraiment?
Non, non, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup aller au théâtre, voir les films aussi. On peut voir comme des fantastiques acteurs, comme le font, évidemment. Mais je ne peux pas maintenant dire à une personne qui m'a influencé énormément, non.
Comment vous choisissez finalement les programmes que vous voulez enregistrer? Et quelle valeur vous donnez au disque? Faire un album, quelque chose qui va rester pour toujours?
Oui, pour moi, c'était ça, évidemment. Mmh. Mais maintenant, j'ai un peu des doutes parce que je pense que le disque, c'est pour les dinosaures. Je ne sais pas si les gens même font la même chose. Bon, à la maison, et maintenant on prend le disque, le met dans l'appareil. Évidemment, on a des technologies modernes, Internet, ça beaucoup, je pense, maintenant. Digital Concert Hall, par exemple, ce que fait les Philharmoniques, c'est l'avenir. Donc, je ne sais pas quelle importance le disque va être, mais je tiens encore à ça parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et chaque année, j'avais mon disque. Finalement, c'est une chose. Oui, on travaille, on met beaucoup de travail dedans, on choisit les morceaux qu'on a envie d'enregistrer. C'est quand même comme un miroir de ce qu'on a fait pendant un certain temps. Donc, c'est toujours très important pour moi.
Dans votre éducation musicale, quand vous étiez à Brno, encore c'était sous le régime communiste, quels étaient vos contacts avec la musique enregistrée? Vous aviez des disques, il y avait la radio, il y avait, au-delà de vos professeurs et des partitions?
Presque rien, parce que... Par exemple, on n'a pas eu même beaucoup d'argent. Les disques, des grands LP disques qu'on a à l'époque, on pouvait acheter évidemment la musique enregistrée en République tchèque, en Russie. Mais comme je ne viens pas d'une famille de musiciens, je n'avais pas beaucoup. Mes parents étaient vraiment, ils ne s'y connaissaient pas beaucoup. Donc, j'ai plutôt, je suis allée voir des concerts plutôt. C'était plutôt la musique live où j'ai découvert des choses, c'était pas les disques.
Et justement, par la suite, quand il y a eu la Révolution, après, vous avez commencé à voyager, à sortir. Comment vous avez pris dans la figure un peu tout le passé, c'est-à-dire les grands enregistrements, les grandes voix mythiques, etc. Vous avez été gourmande de ça, de savoir un peu de tous ces grands noms, chanteuses ou chanteurs ou autres, même de musiciens? Ou pas spécialement, vous avez entendu ça et là des enregistrements historiques? Comment ça s'est
passé? Oui, c'était plutôt comme ça. Ouais. Évidemment, j'ai commencé à découvrir. Les gens m'ont parlé de ça, tu connais ça, tu as déjà entendu Cristal, tu sais qui? Tout ça, donc évidemment, on veut.
Mais quel impact justement ça a quand on a commencé à étudier, on commence à maîtriser un peu son art, on a son avis, sa propre voix, et tout à coup on découvre énormément de choses. Ça a un impact, ça a une influence, ça... Ou pas? Non. Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça. Il y avait après des choses, des chanteuses, des chanteurs que j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé écouter. Mais j'étais jamais vraiment une personne... qui écoutait beaucoup des disques. Moi, comme j'étais toujours joué de piano, évidemment, j'étais pianiste, c'est plutôt, j'étais passionnée par prendre des partitions avec des mélodies et de tout jouer moi-même et chanter. Ça m'intéressait beaucoup plus qu'écouter un disque. Ça venait beaucoup plus tard, quand je suis devenue un peu paresseuse, j'avais un peu moins de temps. Voilà, je me suis dit, cette mélodie, je ne connais pas, moi, je cherche un disque de quelqu'un. Avant, je me suis toujours trouvé une partition et j'essaie de déchiffrer moi-même l'œuvre.
Vous êtes toujours, vous avez toujours un proche des œuvres, vous vous intéressez toujours à resituer dans le contexte, etc. Vous vous documentez sur, sur le compositeur, sur les conditions de l'œuvre dans lesquelles elles ont été créées, etc. C'est la même démarche à chaque fois, ou en fonction de quand vous savez que vous avez un programme à chanter en live ou en concert, ou dès que vous abordez une œuvre, c'est pour vous, c'est essentiel, tout ce qui va autour de l'œuvre ? Pas obligatoirement.
Ce n'est pas essentiel, mais de plus en plus, je pense que j'étais un peu barbarique avant parce que ça ne m'intéressait pas trop. Mais maintenant, je pense quand même, avec beaucoup d'expérience, on commence à apprécier beaucoup plus toutes les choses historiques autour. Ça m'intéresse beaucoup quel compositeur a influencé qui. C'était par exemple très intéressant de voir que Brahms était allé écouter Carmen 20 fois, qui était tellement passionné de ça. Donc, ce sont des morceaux, des informations qu'on met après ensemble qui sont à la fin quand même très intéressants. Je pense que ça aide aussi à interpréter les choses mieux. Je ne sais pas mieux, mais avec un peu plus de connaissances. Quand même, moi, j'aime beaucoup maintenant de savoir beaucoup de choses. Je me sens plus intelligente. Donc. Mais avant, c'était pour moi beaucoup de... quand j'avais 16 ans, par exemple, j'ai rencontré un luthiste. On a créé un groupe de la musique Renaissance baroque. Et il a étudié musicologie à l'époque. Il m'a toujours filé des bouquins sur ornementation, comment on fait ça. J'étais complètement opposée. J'ai dit, mais je veux chanter, tu vois, je veux découvrir moi-même. Évidemment, il faut connaître un peu du style. Mais ça m'a vraiment pas trop intéressé, toute la littérature autour.
Vous aviez l'impression que ça vous bridait, ça vous...
Oui,
ça vous empêchait de vous exprimer.
Oui, je pense que c'est les gens qui étaient trop dedans, ça allait un peu coincé. Après, ça a devenu vraiment très académique. Et on a perdu la musique dedans. J'étais un peu peut-être trop de l'autre côté. Au départ, et maintenant, je pense que j'ai trouvé un peu quelque chose au milieu où je m'intéresse, mais quand même, pour moi, c'est toujours essentiel. De sentir, de mettre plutôt des expériences de ma vie de tous les jours, ce qu'on vit comme personne, de mettre dedans.
Vous avez enregistré beaucoup de choses, beaucoup de répertoires, beaucoup de récitals. Est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu un ou plusieurs moments où vous avez l'impression d'avoir passé un cap, d'avoir vraiment... il s'est passé quelque chose, ou finalement ça a été une progression, un voyage avec des variations, avec des...
Oui, pour moi, ma carrière jusqu'à maintenant, c'était plutôt un voyage. Évidemment, il y a toujours des moments qui influencent quelque chose pour l'avenir. Rencontrer des gens, certains gens, comme par exemple Marc Mikowski, ou après, évidemment, mon mari et Simon. Donc, ça m'a donné toujours, du coup, des directions... Donc, ce n'était pas construit dans ma tête comment ça, les choses vont développer. Ça passe comme ça, mais voilà.
Est-ce qu'il y a des répertoires actuellement vers lesquels vous avez envie d'aller ? Des répertoires auxquels vous ne touchiez peut-être pas trop avant et qui vous, finalement, aujourd'hui, vous intéressent plus, vous avez envie d'approfondir ou...
Bizarrement, maintenant, j'ai beaucoup plus envie de revenir dans le répertoire baroque que j'ai un peu abandonné, complètement, mais évidemment, au début de ma carrière, c'était presque que baroque. Et après, j'avais envie de sortir un peu de ça. Et maintenant, moi, j'ai envie de Monteverdi, par exemple, maintenant. Mais comme ma voix a quand même un peu changé... ça me permet de chanter des rôles comme Rosenkavalier, tout ça, ce que je ne pouvais pas chanter avant, ou par exemple le chant de la terre, de Mahler, des choses comme ça qui sont un peu plus lourdes. Évidemment, j'ai envie de faire ça aussi beaucoup.
Sur le fait, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, vous avez fait cet album en famille, entre guillemets, avec votre mari, sur le fait justement de partager son art avec la personne avec qui on partage sa vie. c'est-à-dire avec qui on rentre à la maison le soir, t'as passé une bonne journée, oui, vous avez bossé ensemble toute la journée. Comment, quelle est la spécificité de ça? Mais sur l'aspect, j'allais dire musical plutôt, c'est vraiment sur l'aspect, comment on aborde ça? Est-ce qu'on n'est pas la même personne, j'imagine, c'est pas la même chose? Même si, bon, il n'est pas chanteur, il est chef, mais bon, il y a une... Sur cette spécificité-là, est-ce que ça vous fait aborder votre art, votre chant différemment?
Pour moi, évidemment, il y a des couples qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Mais pour moi, ça, ça a un effet complètement opposé, parce que travailler avec quelqu'un qu'on connaît aussi bien, et aussi évidemment, je pense qu'on est à la fin ensemble parce qu'on se ressemble dans beaucoup de choses, ça devient très naturel, très... on n'a pas besoin de discuter longtemps... Il y a des gens qui pensent qu'on est à la maison et on prend des partitions, on discute, Simon joue au piano.
Vous parlez jamais de musique
non.
à la maison?
Non, quelquefois, ouais. Quelquefois c'est vraiment même bizarre parce que normalement le chef fait au moins une répétition piano avec une chanteuse avant. On fait même ça, on n'est pas d'accord sur les ornements, des choses comme ça. Peut-être on s'est dit, peut-être on pouvait faire ça une fois à la maison, mais on ne fait jamais. Mais ça me donne beaucoup de liberté, en fait, cet effet de le connaître si bien. Et aussi, il y a beaucoup moins de stress, parce que c'est vrai que je peux lui dire, écoute, aujourd'hui, ma voix, ça ne va pas très bien, je ne veux pas chanter des notes aiguës aujourd'hui. Ce qu'on on dit pas au grand chef normalement, parce qu'on a toujours peur, ils vont pas t'engager la prochaine fois, ils vont penser que...
Et lui vous fait des réflexions que vous acceptez plus facilement?
Évidemment, il y a toujours des petits moments, on se dit, oh, tiens, pourquoi il me dit ça? Mais non, mais en général, je pense que je trouve que c'est pour moi vraiment un grand bonheur. J'ai de la chance de évidemment travailler avec un des plus grands chefs du monde, et en plus, oui, vraiment, comme vous disiez, un peu en famille.
Quand vous chantez pas, quand vous êtes pas sur scène, quand vous faites pas de disques, vous écoutez de la musique aussi en dehors de chez vous, pas trop finalement?
Pas trop finalement, on aime beaucoup écouter jazz le soir, mais maintenant c'est malheureusement... On a le crin DVD, on a une machine que CD, donc c'est notre enfant qui sont complètement les chefs de la famille. Donc c'est toujours le choix entre Harry Potter ou jazz. Donc voilà, c'est toujours Harry Potter qui gagne. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de la musique, même le soir, même à la maison.
Merci Magdalena Cogénère.
De rien. Thank you.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.